Vous voulez qu'on commence ?
Oui, oui, on y va.
Alors bonjour. Donc je suis Pierre Jucquin. Je vais commencer par une petite lecture pour que vous entendiez la voix d'Aragon. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait choisie au hasard. C'est en 1959, en avril. On va peut-être fermer la porte.
Oui.
Aragon venait d'écrire La Semaine Sainte. Il y avait eu aussi, mais dans les coulisses, personne n'en a rien su. Aujourd'hui, les archives s'ouvrent, sinon les bouches. Je l'ai raconté dans ma biographie. Pour autant que j'ai pu avoir des souvenirs et des documents, il y a eu tout un incident avec Maurice Thorez et la direction du parti, secrète entre Aragon et eux, sur le monument d'Elsa Triolet, ce roman qui raconte l'histoire d'un sculpteur dans un pays qui ressemble quand même beaucoup à la Tchécoslovaquie, dans cette période-là. Et Thorez a fini par donner raison à Aragon, ils se sont réconciliés, sous la présidence, sans s'être jamais brouillés d'aucune façon, parce qu'ils étaient très liés. Je vous dis tout de suite que je pense que Thorez est le plus grand dirigeant politique et un grand homme d'État que le Parti communiste français a produit. Alors, Aragon fait une conférence qui s'appelle « Il faut appeler les choses par leur nom » sous la présidence de Maurice Thorez. J'y étais, je m'en souviens, à la mutualité. Et Maurice Thorez va le gratifier du titre sublime de guide du mouvement ouvrier. Alors, il y avait très peu de guides. Voilà. Et il commence comme ça, Aragon. « Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. » C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. J'ai toute ma vie appris pour devenir l'homme que je suis. Mais je n'ai pour autant pas oublié l'homme que j'ai été. Ou à plus exactement parler, les hommes que j'ai été. Et si entre ces hommes-là et moi il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé, changeant, ces hommes-là, quand me retournant je les regarde, je n'ai point honte d'eux. Ils sont les étapes de ce que je suis. Ils menaient à moi, je ne peux dire moi sans eux. Vous suivez le style. Hein ? Je connais des gens qui sont nés avec la vérité dans leur berceau, qui ne se sont jamais trompés, qui n'ont pas eu à avancer d'un pas de toute leur vie, puisqu'ils étaient arrivés quand ils avaient encore la morvonnée. Ils savent ce qui est bien, ils l'ont toujours su. Ils ont pour les autres la sévérité et le mépris que leur confère l'assurance triomphale d'avoir raison. Je ne leur ressemble pas. La vérité ne m'a pas été révélée à mon baptême. Je ne la tiens ni de mon père, ni de la classe de ma famille. Ce que j'ai appris m'a coûté cher. Ce que je sais, je l'ai acquis à mes dépens. Je n'ai pas une seule certitude qui ne me soit venue autrement que par le doute, l'angoisse, la sueur, la douleur de l'expérience. Aussi ai-je le respect de ceux qui ne savent pas, de ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui se heurtent. Ceux à qui la vérité est facile, spontanée, bien entendu, j'ai pour eux une certaine admiration. Mais, je l'avoue, peu d'intérêt. Quand ils mourront, qu'on écrive donc sur leur tombe, il a toujours eu raison. C'est ce qu'il mérite et rien de plus. Alors, comme vous le savez, je viens d'écrire une biographie d'Aragon en deux gros volumes. Il y en avait une jusqu'à présent de Pierre Dex. D'abord, elle n'était pas achevée dans la vie d'Aragon. Il ne disposait pas de l'énorme documentation d'archives dont moi j'ai disposé parce que les archives se sont ouvertes. Et j'ai cherché. Et il racontait aussi sa propre vie, mais qu'il le fait en écrivant la biographie d'un homme qu'on a bien connu. Ce livre a une petite histoire que je vous raconte en deux mots. J'y ai pensé il y a maintenant près d'une quinzaine d'années. L'éditeur Flammarion m'avait demandé de faire un essai « Aragon et la politique ». J'ai dit « Banco ». Et puis, je suis allé voir les archives personnelles d'Aragon. Vous savez qu'il a fait don de tous ses manuscrits, d'une partie de ses archives qu'il n'avait pas détruites, parce que je lui en ai vu détruire. À la Nation française, citation, quel que soit son gouvernement, et aujourd'hui elles sont à la Bibliothèque nationale, ces archives. Le premier jour, j'étais tellement ému de fouiller les papiers de cet homme, j'avais quand même beaucoup approché pendant 20 ans, que je croyais voir sa main le soir. Rassurez-vous, cette hallucination m'a rapidement passé et j'ai repris une attitude plus rationnelle. J'ai travaillé, j'ai accumulé de la documentation, commencé à écrire et j'ai annoncé que ça allait sortir. Je l'ai annoncé 3 ou 4 fois dans les années qui ont suivi, mais ça sortait pas. Et j'étais bloqué parce que très vite, je me suis aperçu que Aragon est irréductible à un type d'activité, à une dimension de la vie ou de l'activité humaine. Aragon politique, Aragon poète, Aragon écrivain, Aragon critique, Aragon journaliste, Aragon militant. Hein. On ne coupe pas Aragon, on ne saucissonne pas Aragon. Et puis j'avais une deuxième raison, c'est que plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'Aragon n'est la propriété de personne. Même pas du Parti communiste. Aragon, c'est notre patrimoine commun, national et universel. C'est un immense apport à la culture. Et puis, il y avait à côté de ces thèmes d'irréductibilité une autre difficulté. C'est que plus j'avançais, plus il m'apparaissait qu'Aragon est un personnage extrêmement complexe, qu'on ne peut pas réduire à une formule ou une équation, et qu'il est bourré de contradictions, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais cessé de signaler et de souligner lui-même. Alors évidemment, parmi ces contradictions, il y a aussi, mais je vais passer rapidement là-dessus, certains aspects de l'apparition d'Aragon. C'était le roi Louis. Mais, et j'ai trouvé dans les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, les souvenirs d'un typo des lettres françaises, Gérard Guichetot, peut-être, qui est entré jeune imprimeur aux lettres françaises, et qui raconte pas mal d'années après, Aragon journaliste, alors là, j'ai eu l'occasion de comprendre soudain ce que pouvait être une monarchie. Mais moi, je n'ai pas vécu comme ça. Moi, j'ai vécu un Aragon qui, certes, quand il entrait, avait une prestance, le roi Louis, mais j'avais l'impression que, dans une petite réunion comme celle-là, ou beaucoup plus petite, il déposait son manteau à la patère, enfin, sa toge, je sais pas, et il devenait le plus charmant et le plus direct des camarades. Parlant toujours, naturellement, avec une voix qui n'a rien de la voix populaire du 19e ou de la Villette, mais la voix des beaux quartiers de Neuilly. Il en vient. Car Aragon est un bourgeois, je vais en dire quelques mots. Donc, j'ai abandonné. J'ai abandonné, j'ai mis ça dans des cartons, j'ai déménagé, ça a disparu. Et puis, il y a 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, un autre éditeur qui est en train de devenir un gros groupe, l'édition se restructure autour de 3 ou 4 grands groupes, La Martinière m'a dit, voilà, dans 1 an, c'est le 30e anniversaire de la mort d'Aragon, il y aura pas mal de choses, on sait que vous avez entrepris un travail, vous le finissez pour nous, il n'y a aucune condition. Vous écrivez ce que vous voulez, il n'y aura aucune coupure de la dimension que vous voulez, de la forme que vous voulez. Plutôt si, il y a une condition, s'il faut que ça soit remis à l'éditeur 3 mois avant le fameux anniversaire. C'était mon salut. Je pouvais plus tarder, j'étais bousculé et je me suis lâché, j'ai écrit d'un seul coup, comme c'est mieux évidemment, très librement. Alors je me suis ainsi acquitté d'une dette à l'égard d'Aragon, parce que cet homme m'a beaucoup apporté personnellement, comme je pense à beaucoup d'autres. Je vais vous raconter une anecdote très courte. La première fois que je l'ai rencontré en chair et en os, je l'avais vu 2 ou 3 fois dans des réunions. J'étais membre, j'ai débuté mon travail militant au Mouvement de la Paix. Il y était, il faisait des discours flamboyants. Et là, nous sommes en 1958, fin 58, début 59, j'ai pas d'agenda. Cette période dont je peux pas dater exactement. Et la direction du parti, Maurice Thorel, me demande de faire un pamphlet contre Malraux. parce que Malraux venait d'être nommé ministre d'État, ministre de la Culture, très bon ministre de la Culture, de Gaulle. Mais là, nous étions à fond contre le régime gaulliste, avec de beaucoup de bonnes raisons, juste. Et on aurait intitulé ça tout simplement anti-Malraux. Et... J'ai un petit doute, on me donne de la doc. Je demande à voir Aragon, qui me reçoit aussitôt, c'était Maurice qui demandait. Et je suis ébloui. D'ailleurs, il a fait tout pour m'épater. Il y avait d'ailleurs un problème avec les Normaliens. Ça remontait à Sartre, à Nizan, etc. Et alors, pendant 2 heures, il parle. C'était sublime. Talma, Louis Jouvet, marchait long, large, derrière la glace. Et puis, c'était fabuleux. Fabuleux. Ça a été pareil chaque fois que je l'ai rencontré, de nombreuses fois par la suite. Là, il m'a un peu parlé de littérature. J'ai senti, en général, nous avons parlé par la suite surtout de politique. Mais j'ai senti à un moment donné, comme physiquement, que quelque chose venait de se passer entre nous qui était définitif. Il m'a parlé d'André Breton, le pape du surréalisme. Il n'en parlait jamais. Et là, mais ça a été une phrase. Et j'ai eu le bon esprit, l'intuition de ne pas relever, de rester silencieux, de ne pas bouger. Il m'en a été reconnaissant, il a arrêté, il fait un silence, et puis il est reparti. Alors mon petit, il a fait semblant d'ignorer pourquoi je venais, naturellement il était parfaitement informé, je débite mon compliment, et il me dit « Ah oui !» Puis il se plante comme ça. Mais mon petit... Il disait « Mon petit » aux hommes plus jeunes, qui aimaient bien. « Mon petit, n'oublie pas que nous fûmes sur les mêmes estrades, Aragon et lui. » J'ai compris ce que ça voulait dire. Je n'ai pas écrit le pamphlet anti-Malraux, mais au moins ça ne sera pas une horreur qui figurera dans ma bibliographie. Voilà comment était Aragon. Il m'a rendu d'autres services du même genre et avec la même élégance, souveraine. En même temps, je m'acquittais d'une dette à l'égard du parti parce que c'est une chose formidable que j'ai pu vivre, d'avoir rencontré un certain nombre d'hommes extraordinaires, Roll Tanguy, Maurice Thorez, Aragon, d'autres, et je ne parle qu'à de la France, en même temps que des camarades de la cellule, de la base, chez qui je dormais quand j'allais en province, etc. Ça, c'est quand même un des événements, un des apports de ce mouvement, de ce parti, qui a été de brasser, de mêler à un haut niveau des gens extrêmement différents. Et c'est ainsi que j'ai essayé, à travers l'histoire d'Aragon, de raconter, pour cette période-là, jusqu'en 1981 à peu près, notre propre histoire, en essayant même de la périodiser, en ouvrant des archives qu'on n'avait pas encore ouvertes, l'histoire du parti, etc. Alors, naturellement, on peut me reprocher d'avoir trop tiré sur la corde, d'avoir insisté excessivement sur Aragon et l'histoire, Aragon politique. Ben, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et en plus, ça me semble utile. Il faut quand même raconter cette histoire pour semer. J'ai le respect de la jeunesse. Et il l'avait aussi. C'est une des leçons qu'il m'a données, particulièrement en 68. Et je pense que ce sont les jeunes qui traceront eux-mêmes le chemin révolutionnaire, s'ils en trouvent de l'avenir. Mais il y a quand même des graines qu'il faut semer, qui viennent du... Pour reprendre un mot d'Aragon, en écrivant ce livre, j'ai pensé semer quelques graines d'avenir. Mais c'est vrai qu'Aragon est un immense écrivain, et que c'est avant tout comme ça qu'il faut le voir. Le Victor Hugo du XXe siècle, c'est quand même Jean d'Ormesson, qui n'est pas n'importe qui, rappelez-vous la chanson de Jean Ferrat, qui a dit, à la mort d'Aragon, c'est le plus grand poète français. Il n'a pas dit du XXe, le plus grand poète français. Ça peut se discuter, mais c'est en tous les cas l'un des plus grands. C'est le maître des mots. Les mots m'ont pris par la main, dit-il. C'est un romancier. C'est Aurélien est probablement un des plus grands romans d'amour de la littérature en français. La Semaine Sainte, est un fantastique roman d'histoire, je ne vais pas dire roman historique. Je suis là les nuances d'Aragon, il faudrait en discuter. Et même son roman Les communistes,
et Blanche,
injustement rejeté dans l'oubli, mérite, j'y ai consacré 3 chapitres, mérite d'être regardé de près. Et puis ensuite, il y a les romans du moment où il va entrer dans la vieillesse, La mise à mort, qui moi m'a bouleversé, comme beaucoup d'autres, Blanche l'oubli, qui est aujourd'hui le plus lu des romans d'Aragon, et Théâtre roman, qui est un roman difficile. Ces 3 derniers romans sont évidemment le récit par Aragon, qui ne l'a dit comme personne, de la tragédie des communistes au XXe siècle, et c'est aussi le reflet de la crise du mouvement révolutionnaire, de l'idée révolutionnaire dans le monde à cette époque. Et puis Aragon est un essayiste, Aragon est un journaliste, un patron de presse extraordinaire. Avant la guerre, au moment du Front Populaire, avec l'accord, je le révèle, enfin l'accord, après qu'on en ait informé Léon Blum, on crée le journal Ce Soir, Aragon en est le directeur avec Jean-Richard Bloch. En quelques mois, il prend 200 ou 300 000 lecteurs à Paris Soir, le journal de Lazareff, etc. Il redevient un étonnant patron de presse quand il dirige les Lettres françaises après la guerre, pendant de très nombreuses années. Je suis en train de lire, de feuilleter, de parcourir toute la collection des Lettres françaises. C'est impressionnant. C'est un éditeur. C'est un critique d'art, il détestait ce mot, mais il s'est occupé de tous les arts, parce que pour lui la culture est unique, j'en dirai un mot tout à l'heure, du cinéma, de la photographie, de la peinture, de la sculpture, il adorait le jazz, la musique, il aimait l'opéra, un peu moins la musique, mais il a énormément écrit là-dessus, ça sera d'ailleurs l'objet, je ne sais pas quoi vous avez échappé, mais vous n'y échapperez pas, d'un 3e tome que je vais faire à la demande de l'éditeur, L'art du XXe siècle dans les yeux d'Aragon. Et c'est un historien même. Il a écrit une histoire de l'Union soviétique. Bon, on peut en discuter, j'ai consacré un chapitre. C'est problématique aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les éléments qu'il est là aujourd'hui. Voilà, évidemment, ce qu'il faut traiter quand on parle d'Aragon. Et si vous voulez, je conclurai par un poème. Mais Aragon est aussi un homme dont la vie est extraordinaire. C'est un personnage de roman. C'est vrai que quand je me relis, des fois, je vois ce que des gens ont remarqué. Au début, c'est dur à lire, tout ça. Quand on est dedans, par moment, ça se lit comme un roman. J'y suis pour rien. Ça n'est pas mon talent. C'est sa vie. C'est sa vie. Les hasards objectifs, les rencontres, les surprises. Ça, il y en a tout le temps dans sa vie. C'est quand même extraordinaire. Alors, il faut naturellement évoquer sa naissance et sa famille. Sa naissance est des plus étonnantes. Je pense que, contrairement... Alors là, maintenant que j'ai lancé le bouchon, les généalogistes professionnels se mettent au travail, mais qu'il n'est pas né à Paris. Je pense qu'il est né dans la région de Toulon. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir. Alors, à la lumière des correspondances, etc., parfois on voit qu'il triche sur les dates, ou qu'il a oublié, tout simplement. J'ai voulu écrire des mémoires, j'ai vu combien c'est... on peut se tromper d'un an, 2 ans, sans vouloir... Et naturellement, ça fait réfléchir pourquoi on commet ces erreurs. Son père, il est un enfant naturel. Si vous voulez, je vous raconterai après comment ça s'est produit. Enfin, en deux mots, sa mère était une jeune fille bourgeoise rangée. Elle était peut-être mineure, parce que maintenant, on a trouvé 3 cartes d'identité de sa mère. Les 3 doivent être fausses. Mais il y en a une qui indiquerait qu'elle était mineure au moment de cette rencontre. Alors, c'est de la moyenne bourgeoisie. Enfin, assez aisée, mais commerçante, mais qui avait du bien au soleil, mais un grand-père, alors, donc le père de sa mère, qui était préfet, avait déserté son poste, était parti en Turquie, avait dilapidé une bonne partie du magot familial, et était devenu le mafieux qui dirigeait les cercles de jeu de Constantinople. Les personnages d'Aragon. Et cette jeune fille, Marguerite, elle s'appelle Marguerite, comme Marguerite dans Faust. Elle rencontre Faust. Faust, 55 ans. Très bel homme, grand bourgeois, un homme très en vue de la Troisième République, radical, homme politique, ambassadeur, député, doyen de la Chambre des députés encore dans les années 20, etc. Et il la séduit aussitôt, et il en résulte ce qu'Aragon dira, mot terrible, c'est à ça que je veux en venir, « ce malheur, moi ». Parce qu'à l'époque, il faut bien penser, le père n'avait pas le droit de reconnaître l'enfant. Nous étions encore sous l'ancien code napoléonien. Même plus tard, Picasso aura aussi des problèmes de cet ordre dans l'une de ses histoires d'amour. Alors, il faut trouver une solution. Le père est voltairien, franc-maçon, il a rompu après avec les francs-maçons, c'est un original. Et la mère appartient à une famille catholique, sa mère très bien pensante, elle-même d'un catholicisme assez ouvert, disons évangélique, généreux. Alors, comment on va faire? Ben, on discute. Mais en attendant, on envoie la petite enceinte dans le Midi là-bas, et probablement qu'il est né là-bas. Vous imaginez que dans les conditions de l'époque, elle reprenait le train pour faire 20 heures de voyage, revenir à Paris, être secouée et accoucher, s'il vous plaît, sur la place des Invalides. Il fallait bien qu'il accouche sur la place des Invalides. Le plus grand poète français ne pouvait qu'accoucher à côté du plus grand héros. Probablement qu'il est né là-bas, et puis après elle est venue, on a mis l'enfant en nourrice. On a des photos là, en Normandie, et au bout d'un an, on a réglé les problèmes, il est revenu, et ils ont occupé d'ailleurs avec la famille pendant quelque temps le logement laissé libre par Monsieur de Monterland et sa famille. Et oui, nous sommes dans ce monde-là. D'ailleurs, j'ai trouvé depuis que je l'ai écrit, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des notes, qui corrigent des erreurs aussi, s'ils l'ont trouvé, n'hésitez surtout pas, il y aura une édition pour les étudiants, en point seuil, donc là je corrigerai tout ce qui est faux, et on laisse toujours des erreurs, et Aragon par son père, j'ai constaté, je fais un travail sur le syndicalisme en ce moment, que j'ai regardé la liste des 200 familles par curiosité, vous rappelez les 200 familles, c'était les régents de la Banque de France qui ont dénoncé du Front Populaire pour dénoncer le grand capital, on dit aujourd'hui le CAC 40. Mais dans les 200 familles qu'on dénonçait en permanence, même les socialistes le dénonçaient, il y a trois Koechlin. Or, Koechlin, c'était la famille de la femme du père d'Aragon. Donc, il touche aux 200 familles par sa naissance. Vous vous rendez compte? Au CAC 40. Voilà. Alors, ça s'arrange par une fable. Mais un vaudeville épouvantable, c'est de la comédie de boulevard. On dit qu'il faut faire un acte de naissance, on n'en a pas. Alors on a un acte de baptême, on est à une époque où les curés savent régler ces problèmes. Alors c'est le curé de Neuilly qui s'en occupe. Ah bon, on avait d'ailleurs l'accent de sa mère, l'accent de Neuilly. Et on a un acte de baptême d'un certain Louis Aragon, qui est né à Madrid, d'une dame comtesse de machin et d'un monsieur comte d'autre chose, on se croirait dans Ponson du Terrail ou les mystères de Paris. Et on fait croire qu'il est né d'une famille qui a été accidentée, qui est morte lors d'un voyage à Madrid, et la famille réelle d'Aragon l'adopte. Ça, c'est la version curée. Mais il y a la version que après la famille met au point avec Louis Andrieux, le père d'Aragon. Le père biologique, comme on dit aujourd'hui, comme on ne disait pas à l'époque. Alors cette version est quand même étrange. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. On fait croire à Aragon et à tous les gens qui les entourent que la mère d'Aragon est sa sœur et que la grand-mère d'Aragon est sa mère. Et la mère-sœur joue à la grande sœur. Il y a des choses troublantes. Quand même, qu'est-ce que c'était que cette mère immature et disciplinée, au fond, hein, qui allait jouer à la poupée avec son petit frère, Aragon. Mais Aragon, il y croit. Alors il a bien dit, je savais tout. Oui, dans son inconscient, c'est bien. L'inconscient parle, l'inconscient sait. Mais dans sa tête, pas du tout. On raconte même qu'après la guerre de 14-18, alors qu'Aragon avait eu la révélation, je vais y revenir et je m'arrêterai sur ces aspects, il est quelque part et il demande à Paul Vaillant-Couturier, à l'Humanité, de prévenir sa sœur qui va bien. Et Boris Tatlisky, bon, récemment, qui a été le secrétaire d'Aragon avant la guerre, me raconte que pendant la guerre, dans la clandestinité, il rencontre Aragon, je ne raconterai pas cette histoire qui est aussi incroyable, et Aragon lui présente ma sœur. Donc il joue encore ce jeu. Or, comment s'est révélé à Aragon? Vers l'âge de 13-14 ans, on met au point un petit bricolage. Le père usait des facilités de l'époque, il n'y avait pas l'informatique. Et là, on rétablit un petit peu de la vérité, mais très peu. Et puis arrive l'âge de 20 ans. Nous sommes pendant la guerre de 14-18, en 1918. Aragon a à peine 21 ans. Il a fait des études de médecine, à la demande de sa famille. Il est médecin. Il est mobilisé en 1917 à 20 ans au Val-de-Grâce et c'est là la célèbre rencontre avec André Breton qui lui ne deviendra pas médecin mais restera infirmier et lui devient médecin, médecin militaire, médecin auxiliaire comme on disait à l'époque, c'est-à-dire médecin qui n'était pas un médecin militaire de métier, de carrière. Et en juin 18, alors que vient de commencer la grande offensive des Alliés avec Foch, le général Mangin, etc., qui est une boucherie épouvantable pour repousser les Allemands en direction de l'Allemagne, Aragon est à la gare de l'Est, où il y a le train, plein d'officiers, de militaires, etc. Il va embarquer, le canon tonne à 100 km au nord, et sa mère arrive sur le quai, elle lui dit « Voilà, je dois te dire quelque chose. Ta mère, c'est moi, et ton père, c'est lui. » Vous imaginez la scène. Et le télescopage entre la naissance et la mort, parce qu'on lui révèle, parce qu'il va au casse-pipe. C'est terrible. Pourquoi j'ai raconté tout ça? Mais d'abord pour vous dire que c'est un roman, et puis on pourrait continuer. L'affaire Dreyfus, les histoires avec les Suresses, Elsa Triolet, etc. Des romans. La Résistance. Regardez Aragon. Pendant la Résistance, il est à Lyon. En 1943, c'est le moment le plus dur de la Résistance. C'est la nuit. Il se rend à l'hôpital de Lyon pour fonder le comité de résistance des médecins. Avec le professeur Debray, le professeur Valéry Radeau, parce qu'Aragon, j'en dirai un mot tout à l'heure, voyait toujours très large. J'entendais le mot rassemblement avant que nous rentrions dans cette salle. Lui, il rassemblait, hein. C'est son principe. Et il est en retard, c'est arrivé dans la résistance. Ça, c'était très risqué. C'est la nuit, il fait froid. Nous sommes à Lyon, capitale de la résistance. Une voiture allemande arrive. Il voit un officier, il lève la main. Il avait pris soin de se munir d'une mallette et d'un stéthoscope, enfin, d'un appareillage de médecin, il fait signe, la voiture s'arrête, et il dit dans un allemand, qui était le sien, c'était l'allemand de Goethe et Schiller, hein. Et il dit, voilà, je suis appelé en opération à l'hôpital, je suis en retard, pouvez-vous... Oh, l'officier parfaitement correct le fait monter dans la voiture et amène à Aragon fonder le comité national de résistance des médecins. Ça, voilà, et toute sa vie est pleine comme ça. Pourquoi je dis tout ça? Parce que la question se pose après une enfance comme celle-là, qui est une enfance parmi les femmes, mais voit aussi son père. Et là, j'ai pu établir que, contrairement à ce qu'il racontait, son père s'est beaucoup occupé de lui, était très présent, très sévère d'ailleurs, lui a appris l'escrime, le cheval, etc. Et l'a amené à l'Assemblée nationale où, vers l'âge de 15 ans, un huissier lui montre un casier surmonté de A et dit « Ce sera le casier de monsieur plus tard. » Je pense qu'Aragon a été marqué, il a fait de la politique contre son père, mais aussi comme son père. Eh bien, avec tout ça, Aragon a eu une enfance certes choyée, certes bercée au milieu des femmes, et avec la présence d'un père de l'époque, autoritaire, dur, macho, etc. Mais il aurait pu devenir un garnement, un sale gosse, un mauvais élève, etc. Rien que tout ça. Il est parfait, même à l'église. J'ai pu retrouver les trois prêtres qui ont été chargés de son éducation religieuse. Il sait tout Monterland, c'est Monterland qu'il racontait, tout Racine à 11 ans. dans les vacances scolaires, sans doute un certain nombre d'entre vous ont fait du latin, dans les vacances scolaires, entre la sixième et la cinquième, il s'embête. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit à livre ouvert deux auteurs latins particulièrement difficiles, mais deux auteurs qui parlent d'histoire, Tacite et Salluste. 11 ans. Voilà, ils étaient comme ça à l'époque, c'est vrai, mais tout de même. Donc, Aragon ne répond pas au malheur qui est le sien par une espèce de désintégration, de tragique, d'affaissement de la personnalité. Pas du tout. Comment il répond? Par l'excellence et par l'invention. Dès l'âge de 5 ans, il commence à écrire des romans. Et ce miracle, je l'ai tenu entre les mains, ses parents, sa mère, ont conservé un petit roman qu'il a écrit à l'âge de 5 ans au crayon, très mal écrit, hein, mais qui est absolument merveilleux. Il a pu le republier à l'âge de 20 ans, ou même un peu plus, dans un volume, le Libertinage, et toute la critique s'y est laissée prendre. À tel point qu'un anticommuniste fieffé a dit « Ah, on voit bien, ça se passe en Russie !» C'est inspiré de la comtesse de Ségur, le général Bourakine. Vous voyez que Aragon répond par la création. C'est-à-dire qu'en faisant des romans, puis des poèmes, en rêvant, Aragon réplique à une mauvaise situation, à la tragédie, par l'invention, l'imagination d'un monde plus beau, d'un monde réellement humain, où toutes ces vilainies, toutes ces hypocrisies, toutes ces choses qu'il voit dans la bourgeoisie n'auraient plus lieu. Alors, naturellement, c'est très important, parce que toute sa vie, Aragon réagira au malheur de la même façon, en gros. Par exemple, en 1956, c'est le rapport Khrouchtchev, c'est terrible pour les communistes, des révélations sur Staline, un monde s'effondre pour eux. Et Aragon est profondément touché, alors même qu'il avait vu venir les choses, il savait un certain nombre de choses. Est-ce qu'il répond par un débat politique virulent, où il s'en va, comme beaucoup d'autres, etc.? Pas du tout. Il répond en changeant, si j'ose dire, de niveau poétique. Il fait son premier très grand recueil poétique, le roman inachevé, où on voit un changement qualitatif dans la poésie aragonienne. Et puis il va faire tous ces grands romans dont nous parlions, et une série de poèmes, y compris le Fou des Dessins. C'est-à-dire qu'Aragon répond au désespoir par une salve d'espoir qui est une salve de création poétique. Et ceci, je l'ajoute en un seul mot, mais ça serait très long à développer, sur la base d'une immense culture. Quand Breton le rencontre, il dit « il a tout lu, c'est... » Et Aragon a toujours eu l'idée qu'il fallait tout assimiler, tout apprendre, pour pouvoir inventer du nouveau. Il faut bien se rappeler ça. Il a toujours eu l'idée aussi qu'il n'y a pas deux cultures, mais une seule culture. Il lisait aussi bien des romans populaires, comme ceux que je citais tout à l'heure, où il aimait les films comme Fantomas, que Jean-Luc Godard, etc. Hein? Pour lui, il y a une seule culture, qui a différentes formes, mais elle nécessite toujours de s'assimiler tout le passé culturel, tout le patrimoine culturel, et de travailler, car toute expression culturelle est un métier. Avec cela, Aragon avance sans cesse. C'est des grands fauves, ces hommes-là. Regardez Picasso, période rose, période bleue. Ils avancent, ils inventent quelque chose. Dès qu'ils sont allés au bout ou croient l'être, hop, ils laissent tomber et ils passent à autre chose. Et Aragon a fait cela tout le temps. Il entrera dans le mouvement Dada avec Tristan Tzara. Au bout d'un an, il laisse tomber. Breton aussi. Mais il garde un souvenir émerveillé. Il a appris quelque chose, il a fait une percée. Puis il est avec les surréalistes, il rompra avec eux. Il passera au réalisme socialiste, etc., etc. Ce sont des hommes qui avancent sans cesse, qui absorbent tout ce qu'apporte l'époque et qui le transforment. Alors il faudrait que je dise aussi que, avec tout cela, Aragon est un grand amant. Et là, on entre dans un monde un peu délicat, je ne vais pas m'étendre. Aragon a aimé un certain nombre de femmes. Bon, je l'ai décrit, il y a une américaine, R de l'Anux, il y a une autrichienne, il y a surtout Nancy Quenard. Nancy Quenard. Vous vous rappelez les affiches Art déco? C'est une grande affiche, on voit les traves d'un paquebot qui fend la mer, très stylisé, les paquebots Quenard, Quenard Lines. C'était une milliardaire anglaise qu'il a rencontrée à Montparnasse, parce qu'elle fréquentait Montparnasse, mais elle n'est pas que cela, c'est une révoltée qui a été toujours du côté des Noirs, des républicains espagnols, qui a soutenu Aragon, bien que se trouvant elle à Londres, pendant la Résistance, qui a écrit à Aragon une lettre merveilleuse sur les communistes, pourtant descendus en flammes par toute la plus grande partie de la presse, etc. Et il devient amoureux fou de cette femme. Il parcourt, il est déjà adhéré au PC, mais bon, qu'à cela ne tienne, ses premières années au PC, là on a fait une petite légende, hein. Il a adhéré en janvier 1927, mais après j'ai retrouvé la trace qu'il a été. Il n'a pas eu sa carte du parti pendant un an, et il parcourt l'Europe, y compris l'Espagne pré-franquiste et l'Italie mussolinienne, ce qu'il racontera dans le roman inachevé, avec Nancy Quenard, sa milliardaire, hein, mais qui est une milliardaire de génie. Hein. C'est un peu comme Peggy Guggenheim et d'autres. Et puis il rompra avec elle parce que elle n'était pas fidèle. Voilà. Aragon est un jaloux. Il le dit, il y a des poèmes, c'est un jaloux. Jaloux des gouttes de pluie. Il est jaloux, il sera jaloux autour d'Elsa, etc. Ça s'explique peut-être d'ailleurs par ses rapports avec sa mère, j'en sais rien. C'est pas ma compétence. Mais Aragon rompt avec elle dramatiquement. Ils sont, devinez où, à Venise. On réécrit l'histoire, hein. On répète l'histoire. Ils sont à Venise, elle tombe amoureuse d'un pianiste, Harry Crowther, de jazz, et il part, après avoir tenté de se suicider. Il est sauvé in extremis. Il y a toujours une idée de suicide dans la tête d'Aragon. Et puis, il remonte seul vers la France, il s'arrête à Milan, il va 6 soirs de suite à la Scala, c'est encore Aragon merveilleux. Et qu'est-ce qu'il voit 6 soirs de suite à la Scala? Lui, qui crève de jalousie et qui a fait suicider par jalousie, mais voyons Othello. Voilà Aragon. Et Nancy Quenard restera un phare. Hein, et il lui consacre plus du tiers du roman inachevé, qui est son cycle de poèmes le plus autobiographique. Et puis il y a Elsa Triolet. Alors bon, je les ai vus ensemble, hein. C'est un couple. Elsa Triolet, c'est une femme qui a eu une vie avant Aragon. Moi, j'ai jamais vu rire. C'est une femme très intelligente, très brillante, très autoritaire. Et je pense qu'Aragon avait besoin de ça. Il n'a pas eu de mère. Et Elsa le prend en main alors qu'il est dans une situation, si je puis dire, hein, je parle un peu grossièrement, qu'il est dans une situation critique. Il ne sait plus où déboucher, il est à la fin du surréalisme, il n'arrive pas à rompre avec eux, il est entré au Parti communiste, qu'est-ce qu'il va écrire? Parce qu'Aragon a une tendance à la dispersion, il a une tendance à la prolifération. Ce roman qu'on a reconstitué par bribes, qu'il a tenté de brûler dans ces années-là, La défense de l'infini, l'infini, il y a plus de 100 personnages. Il y a un début, il n'y a pas de fin, il ne sait pas où il va, il ne fait jamais de plan. Alors, il a théorisé ça, j'y reviendrai peut-être en un mot. Mais Elsa arrive et elle va le guider. Elle lui est d'une aide inestimable. Il dit, jusqu'à ce que je t'ai rencontré, je balbutiais. Et là maintenant, il construit 3 choses à la fois. Un couple, homme-femme. Ils resteront ensemble fidèles jusqu'à la mort. C'est un vrai couple. Il y a aussi le mythe, mais c'est un vrai couple. Un parti, là, il a choisi. C'est pas elle qui l'a fait choisir, mais elle lui dit, tu y es, tu y restes. Il restera fidèle jusqu'à sa mort au Parti communiste. Et une esthétique, le réalisme. Sur ces 3 piliers, il va bâtir le grand Aragon qu'il portait en lui-même. Alors, je sais bien que tout ça pose quelques questions parce que, vers la fin de sa vie, Aragon, après la mort d'Elsa, a eu des relations homosexuelles assez nombreuses avec un certain nombre de gens. Je l'ai évoqué, on ne peut pas ne pas l'évoquer. L'hypothèse qu'on peut donner, celle que donne Jean Rista, dont il a été question, je crois, dans une conférence hier, il était bisexuel. Et il avait ce talent prodigieux de réussir à s'introduire dans les sentiments d'une femme. Il y a des poèmes, il y a des passages de cette défense de l'infini dont je parlais, où il pénètre ce qui est très rare. Je le comparerais à un ancien surréaliste qui a continué à faire du surréalisme dans un cinéma bien postérieur, c'est Buñuel, dans Belle de jour, par exemple. Il y a chez Aragon cette intuition, cette démarche. Mais il faut bien que je parle d'Aragon en politique, quand même. Alors, je l'ai déjà dit, il est très complexe, il est un tissu de contradictions. Son passage au Parti communiste, auquel il est resté fidèle jusqu'à la fin de ses jours, c'est une émotion, un enthousiasme et une souffrance. Aragon a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux, et pas plus que de toi l'amour de la patrie ». Petite phrase que Brassens a supprimée quand il a mis en musique « Il n'y a pas d'amour heureux ». Mais pas Brassens dirait « Pas plus que de toi l'amour de la patrie », évidemment. Mais vous savez qu'Aragon, c'est le grand seigneur Aragon, quand sort le disque 45 tours, Aragon en commande 200 pour les offrir à ses amis, alors qu'il était furieux que Brassens ait supprimé la phrase. Ça, c'était Aragon. Alors, Aragon traverse des déchirements, des conflits, une souffrance. La souffrance, elle n'est pas qu'en amour. Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas de politique heureuse, il n'y a pas d'histoire heureuse. Il y a de la souffrance dans toutes les grandes activités nobles qui font avancer les êtres humains. Je crois que on ne comprend rien à Aragon si on attend chez lui des tédéums. Vive les résistances et héros, etc. À part quelques poèmes du temps de la résistance, et encore, il y a des morts là-dedans, Gabriel Péri, Aragon montre plutôt la douleur, la souffrance, les tortures, les morts, l'enfer. Il a l'image de Jésus-Christ au Golgotha, de Ponce Pilate, l'enfer, etc. Parce que son éducation catholique, comme chez Hugo, passe beaucoup dans son imaginaire. Il dit « J'ai remis la mythologie chrétienne sur ses pieds ». Alors il commence par être anarchiste, tout naturellement, ces jeunes gens dadaïstes sont anarchistes, veulent tout casser, et puis il adhère dans la douleur, puisqu'il adhère en rompant avec ses amis surréalistes. Et il a été marqué toute sa vie par cette rupture. Et puis, il y a une série de crises avec le Parti communiste. En revenant de Moscou, on lui rend pas sa carte. Il a des crises, des histoires avec Marty. Il faut dire que Marty, pour autant que j'en juge, par ce que j'ai vu, et par les archives du parti, a eu des histoires avec tout le monde, tout en ayant été un héros mutin de la mer Noire. En 1940, on a aujourd'hui le document, le responsable clandestin au cadre du parti avertit Moscou que Aragon, pas très sûr. Gabriel Péri non plus. On a les documents aujourd'hui. En 45-46, les jeunes loups disent ben, c'est le poète de la nation qu'il aille au musée, maintenant papy nous prenons la place. C'est les débats avec le journal Action. En 53, il raconte le congrès de Vienne du mouvement de la paix où Elsa Triolet ne peut pas être élu au bureau mondial du mouvement de la paix parce qu'on est en pleine crise antisémite, elle est triolée juive, hein. Elle s'appelle Ella Kagan en réalité. On est en pleine crise de délire antisémite de Staline qui va mourir. Aragon en fait une amnésie post-traumatique qui raconte. Il oublie 3 semaines de sa vie, les 3 semaines de cet événement. Je vais essayer de raconter en détail, c'est terrible. Hein. Il y a l'histoire du portrait de Staline par Picasso. Si vous voulez que je vous le raconte, je le ferai après. Il y a le rapport Thorez, le rapport Khrouchtchev de 1956 et Thorez qui verrouille le débat. Il y a le monument. L'homme qu'il aimait le plus dans le parti commet une erreur. J'ai retrouvé naturellement la condamnation du monument par le bureau politique, secrète. Il n'est pas sûr qu'Aragon ait jamais vu le texte, mais je le publie. C'est bien qu'on ouvre nos histoires, c'est comme ça. Hein. Et ça s'explique d'ailleurs par l'époque. Et puis il y a Prague. Mais là, Aragon parle de se suicider. Et je me rappelle que Valdec Rocher, qui avait succédé au secrétariat à Maurice Thorez, m'avait dit « Est-ce que tu crois qu'il le fera ?» Et spontanément, j'ai répondu « Oui, au fond, j'en savais rien. » Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont rencontré Aragon à ce moment-là, y compris les hommes de droite, comme l'écrivain François Nourricier, ont dit « Il se serait suicidé si le Parti communiste n'avait pas condamné » On l'a fait avec nos façons de faire de l'époque, l'invasion à Prague. Mais ça l'a absolument désespéré, sans parler de ce qui se produit après, quelques années après, la fermeture des lettres françaises. Qu'on a fermé ce journal pour des raisons financières, il ne vivait plus, tous les autres journaux littéraires vont disparaître, les nouvelles littéraires, tout ça, les anciens s'en souviennent, mais évidemment, le soutien que Aragon... Dex, Dobzhansky, etc., donnaient sans cesse aux dissidents soviétiques, aux tchèques, etc., indisposaient une partie de l'appareil du parti. Eh bien, la question qui se pose là, c'est Aragon, fidèle jusqu'à son dernier souffle. Évidemment, il n'a pas vu la fin de cette longue période, qui est 1989-90, la chute du mur, la chute de l'Union soviétique. Qu'aurait-il fait ? J'en sais rien. Moi, je ne le ferai pas parler à la place de qui que ce soit. Ce qui est un fait, c'est que jusqu'à sa mort, il est attaché au parti. Quand, par exemple, Marchais, qui ne l'aimait pas beaucoup, lui envoie, mais qu'il respectait, lui envoie un bouquet de fleurs, Aragon pleure chez lui, malade, très âgé. Il n'était pas dans la forme où je suis encore en ce moment, au même âge. J'en gros l'âge qu'Aragon avait quand il allait mourir. Il avait usé la brûlé la chandelle par les deux bouts. Hein. Alors la question qui trouble beaucoup les gens qui s'occupent d'Aragon en ce moment, c'est pourquoi cette fidélité ? Étrange. C'est une vraie question. Pourquoi cette fidélité ? Ma réponse, c'est d'abord, mais je dis ça, hein, je me trompe peut-être, c'est... Pour lui, la fidélité était une valeur en soi. Aragon se prenait, mon expression est toujours un peu raccourcie et simpliste, mais pour un chevalier du Moyen-Âge. Il a beaucoup étudié le Moyen-Âge, rêvé sur le Moyen-Âge. C'était à la guerre, il est d'un courage physique prodigieux, je ne le raconte pas maintenant, mais extraordinaire. C'est un chevalier du Moyen-Âge. Il rencontre le général Delatte de Tassigny. En 1946. C'est une initiative d'Aragon, on ne lui a pas demandé de le faire. Ils font de la politique ensemble, et Aragon, en sortant, dit « J'ai rencontré le chevalier Jean de Bueil. » C'est un chevalier du Moyen-Âge qui a laissé une chanson de geste. C'est Aragon. Donc ça, c'était une valeur fondamentale. Les lâches, les trouillards, les paniquards, il avait horreur de ça. C'était rédhibitoire. Il fallait être courageux. Mais naturellement, il fallait être courageux pour dénoncer aussi. Et puis, je crois que ce n'est qu'un petit élément de la réponse. Parce que la vraie réponse, c'est qu'Aragon a adhéré au Parti communiste vers l'âge de 30 ans quand même. Il y a des gens, j'en suis, qui ont adhéré beaucoup plus jeunes, parce que c'était les circonstances ou leur milieu. Après mûre réflexion, Aragon adhère au communisme sur la base d'une pensée construite. Et c'est pour ça qu'il a tenu jusqu'au bout. Parce que il a fait de la philo, hein. J'essaie de réhabiliter Aragon philosophe. En particulier dans Le Paysan de Paris, où il refait, c'est une lecture parmi beaucoup d'autres possibles du paysan, sans le savoir, le parcours de Marx de l'idéalisme allemand au matérialisme. Alors, quelles sont les bases fondamentales et constantes de la personne politique d'Aragon. Un, la haine de la guerre. C'est pas un hasard si j'ai appris à connaître Aragon, flamboyant au mouvement de la paix. La guerre de 14-18, la guerre du Rif, le Maroc, c'est là qu'il va adhérer. Le mouvement de la paix, les colombes, c'est lui qui va chercher une colombe chez Picasso. La guerre d'Algérie, où je rétablis le fait qu'Aragon a même soutenu l'appel des 121 à la désertion, etc. Ce qui est nié par beaucoup de gens. Mais il y a des textes publics. En même temps, il sait se battre, il se bat comme un héros à la guerre, mais c'est un médecin. dragon pendant la résistance, c'est très ignoré, mais ça se retrouve dans les archives. Il y a même des inédits d'Aragon qui sont des messages codés d'Aragon envoyés à la direction. Il était un général de la résistance. Il organisait les maquis. Qu'est-ce qu'Aragon a le plus détesté dans la guerre de 14-18? La boucherie. Il est humaniste. Il m'a dit une fois, tu te rends compte ce que c'est quand tu as 20 ans et que tu es médecin, de tenir dans une tranchée pleine de boue le cœur d'un type qui va mourir et qui a ses derniers battements dans tes mains. Ouais, faut voir ça. D'ailleurs, il y a d'autres médecins qui, dont on publie peu à peu les carnets, les mémoires, qui ont été sensibles à ça. Mais Aragon va beaucoup plus loin. Il cherche les causes de la guerre, ça il ne les trouve pas encore. Il les trouvera quand il approchera du communisme. Hein? Mais il est révolté par l'hypocrisie de la société bourgeoise. Et surtout des intellectuels. C'est Vatanguerre, il en a pourtant admiré. Barès, il admirera Barès jusqu'à la fin de ses jours, ça on peut se demander pourquoi. Ces hommes appellent les soldats à aller se faire tuer. Claudel. Il admire beaucoup Claudel, mais Claudel envoie une ode au général Joffre pour lui dire « Allez, mon général, prenez-les, faites-les tuer. » Et ça, Aragon dit « Mais où elles sont les valeurs humanistes? Où sont les droits de l'homme? Où est la liberté ?» Il pose les vraies, les questions de fond. Voilà sur la guerre. Et ça, c'est une position de toute sa vie. Deuxième position de toute sa vie, contre le colonialisme. Troisième position de toute sa vie, détestation de la bourgeoisie. Alors, bien qu'il l'ait décrite aussi comme personne. Un jour, il m'a dit « Proust ! Oh, Proust, mon petit, mais il est chiant !» Ça, c'était le summum de l'aristocratie aragonienne. Et alors, vous voyez bien, en réalité, il décrivait la bourgeoisie, même dans les communistes. Les tableaux très réussis sont les tableaux de la grande bourgeoisie. Les tableaux du monde ouvrier, il s'y essaye, il fait un effort, il a du mal. Évidemment. Mais dans la bourgeoisie, ce qu'il déteste, c'est l'intérêt, l'argent, la marchandise, l'argent, ça résume tout pour lui, c'est le Bozzola, hein. L'argent. Il y va même, si vous avez lu Les Voyageurs de l'Impérial, son roman publié juste à la guerre, vous l'avez vu, il va même jusqu'à préférer la noblesse. Les nobles, Chateaubriand, enfin, si un réactionnaire, c'est bien Chateaubriand en politique, mais les nobles avaient de l'honneur. Ils étaient fidèles, on y revient, et puis, ils n'avaient pas l'argent comme valeur suprême, mais ils méprisaient un peu l'argent quand ils étaient de vrais nobles. Et Aragon va se chercher une ascendance familiale noble. Il descendrait, alors indirectement, évidemment, vous allez voir, ouais. Pourquoi ? De l'évêque Massillon, qui était un des prédicateurs de Louis XIV, Jean-Baptiste Massillon. C'était un légendaire familial, pour l'instant on n'a rien pu prouver. Il y a peut-être du vrai, mais il voulait avoir de la branche. Et il a même écrit un poème là-dessus, parce que c'était son mépris féroce de ces gens attachés à l'argent, et qui plaçaient cette valeur de l'argent comme valeur suprême. Détestation de la bourgeoisie, et il ajoutait aussi l'hypocrisie bourgeoise et la censure, l'ordre moral. Dans les lettres françaises, dès qu'il y a un film interdit, la religieuse, etc., hop, Aragon est au créneau. Hein, pas de censure. Évidemment, c'était lu dans d'autres pays, à l'est du rideau de fer, comme on disait à l'époque. Ça devait quand même faire réfléchir un certain nombre de gens. Et puis, il y a chez Aragon une idée, c'est la quatrième idée qui le structure, qui est qu'en Russie, en 1917, il s'est passé un événement qui a une importance historique et même anthropologique, qui change le cours de l'humanité définitivement. Il faut bien le dire, j'ai été de ceux, comme tous, et même à droite, tout le monde croyait que 1917 avait créé définitivement le régime soviétique et que la Russie était soviétique définitivement. Ça explique beaucoup de choses. Parce que on dira, Aragon a su beaucoup sur les purges, les procès, il a défendu, il a tué, etc. Oui, tout ça, si vous voulez, on peut rentrer dans le détail. Mais nous étions tous à penser que ça changerait, ça pourrait changer si on se battait à l'intérieur, parce que le plus fondamental avait été fait, un saut qualitatif dans l'histoire humaine. Ce qui n'était pas complètement faux. L'ennui, c'est que ce n'était pas irréversible. Ce qui nous amène à réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'histoire, sur le déterminisme, guillemets, sur la liberté et l'initiative en histoire, etc., etc. Mais Aragon, hein, nous avons tous cru comme lui, et les anticommunistes aussi, Malraux, que la révolution bolchevique avait introduit quelque chose de définitif. Même s'il y a des défauts, nous ferons changer. C'était l'idée d'Aragon. Mais c'est son pari. Le parti, pour lui, c'est un pari. C'est une famille, c'est tout, c'est un pari. Un jour, il me dit, écoute, mon petit, ce parti, il a tous les défauts que tu lui... Ça, c'était déjà après 68. Hein. Il a tous les défauts que tu lui connais. Et il ajoute malicieusement, je ne veux pas citer cette petite partie, parce que, j'ai peut-être eu tort, et même ceux que tu ne connais pas encore. Mais c'est le seul qui peut changer le monde. C'est le seul qui peut changer la vie, c'est l'expression est surréaliste, le seul qui peut faire la révolution. C'est à ce choix qui s'est tenu jusqu'au bout, évidemment, sans voir ce qui s'est passé. En somme, il tournait autour de la 11e thèse sur Feuerbach, hein. De Marx. Il ne s'agit plus d'interpréter le monde, il s'agit de le changer. Il n'y a qu'une voie pour le changer, c'est de faire la révolution, et il n'y a qu'un parti révolutionnaire. Mais il est entré en crise, il a fini comme ça. Naturellement, en termes de force sociale, Aragon dégage le rôle décisif de la classe ouvrière, ça c'est long qu'ils viennent, mais aussi le rôle des intellectuels. Il est un des premiers, avec Vaillant-Couturier et Maurice Thorez bientôt, à considérer que les intellectuels forment un vaste groupe social qui a ses particularités et qu'il faut prendre comme tel. Il réfléchit même, est-ce qu'il crée de la plus-value, etc. Enfin, il s'entraîne dans ce domaine. C'est un sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure dans notre réunion. Ce vaste groupe social, il y pense depuis les années 34 jusqu'aux années 70. On parle beaucoup du comité central d'Argenteuil, 1966, où Aragon a tenu la plume pour un petit passage décisif. Il y a une partie mythique, hein, dans ce que nous avons fait là, aujourd'hui, il faut le réduire, mais il y a eu aussi une ouverture formidable. On parlait de la culture, parce qu'on n'osait pas parler du socialisme, mais c'était une critique implicite, non dite, de ce qui se faisait en Urss, on l'a dit plus tard. Déjà, Aragon et d'autres, les crochets avaient commencé un petit peu. Donc, un rassemblement de ces intellectuels pour avancer sur la base de la liberté créatrice. Il est un rassembleur. La résistance, le Front Populaire, il rassemble. Vous vous rendez compte qu'en 1937, il préside ce qu'on appelle la Maison de la Culture, qui n'est pas une maison, même si elle avait une maison dans les beaux quartiers, hein, près de l'Opéra. C'était déjà tout un symbole. Mais qui est un mouvement qui rassemble des intellectuels de toutes disciplines. Ça va de Picasso à Malraux, Gide, Louis Guillou. Enfin, ils sont plus de 60 000 réels, sans compter les enseignants, qui sont organisés autrement dans leur syndicat. C'est une chose formidable. Il y a des débats tous les jours, des expos, et les plus grands sont là, ils ont tous passé par là. On voit assis côte à côte Malraux, Gide, Aragon en train de causer. Ouais, ça, c'était Aragon. Et puis, il s'adresse même aux chrétiens. Il parle avec Emmanuel Mounier. Il approche Verdanos. Et ça sera d'ailleurs une des grandes tendances rassembleuses d'Aragon, rassembler les chrétiens et les communistes, le fameux poème La Rose et le Reseda, la conjonction. Et celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. On peut en parler. À tout cela, ces quatre points structurants de la pensée d'Aragon, je voudrais, et politique, je voudrais en ajouter un que je n'avais pas vu jusqu'à présent suffisamment, et qui m'est venu parce que j'ai trouvé aux archives de l'Institut national de l'audiovisuel, il y a quelques jours, une interview d'Aragon par Philippe Alfonsi sur Blanche ou l'oubli. Et voilà ce qu'il dit. Philippe Alfonsi, vous faites toujours un plaidoyer pour les femmes. Vous êtes peut-être le plus féministe des écrivains. Vous voyez venir, je pense qu'il y a une cinquième composante de la pensée constante en politique d'Aragon, c'est le féminisme. Aragon répond, écoutez, il est indiscutable que j'aime les femmes, et surtout que j'en aime une. et que de celle-ci j'ai reçu bien des leçons dans la vie. Voyez-vous, je suis un homme qui a toute sa vie été porté à défendre les peuples opprimés. Mais il y a un peuple opprimé dont personne ne parle jamais. Ce sont les femmes. Comment nous sommes en 1967. Les plus anciens ont de la mémoire. Hein ? On avait combattu le birth control, le droit à l'avortement, etc. Un peu avant. On a changé, mais... Comment voulez-vous que je ne sois pas de leur côté ? Et de plus, justement à cause de la justice qui séculairement ne leur est pas rendue, avec cette façon qu'ont les hommes de se considérer comme d'une essence supérieure ou de penser que leurs femmes leur sont supérieures pour le choix des étoffes, par exemple, ou des choses de cet ordre, ou la cuisine, et encore il y a des hommes qui prétendent la faire mieux. Personnellement, je trouve ça révoltant. Et je pense qu'une catégorie d'êtres humains, comme les femmes, non pas seulement mérite qu'on la considère comme supérieure en compensation, mais l'est. Les femmes ont été maltraitées par les hommes, et je pense qu'elles en ont acquis une expérience que les hommes n'ont pas. Et pour cette raison, elles leur sont supérieures, et le seront encore pendant longtemps. Parce que je ne suis pas féministe. Ça c'est l'élégance d'Aragon, au sens de féminisme étroit. Parce que je ne suis pas féministe, et je ne pense pas qu'on arrange les choses avec ce que les féministes ont proposé en donnant le droit de vote, par exemple, aux femmes, et en prononçant ce mot ridicule d'égalité. D'ailleurs, je ne suis pas pour l'égalité de l'homme et de la femme. Je suis pour la supériorité de la femme. Et je suis en général, parmi les hommes et les femmes, pour l'inégalité sur la valeur de l'homme ou de la femme que j'ai devant soi. Important tout ça, hein ? Il ne s'agit pas de passer tout le monde au rouleau compresseur. Il y a des différences fondamentales entre les êtres humains, mais je pense que les femmes, effectivement, sont un réservoir de force intellectuelle considérable et que les hommes, si fiers de leur force physique, n'ont jamais pu posséder. Voilà. Jean Ferrat est dans toutes les têtes. La femme est l'avenir de l'homme. Voilà. Je voudrais conclure en posant une question que je me suis posée, évidemment. Me voilà qui, depuis une bonne heure, suis en train de vous retenir sur Arago. Les choses que je raconte dans cette biographie d'Arago, elle remonte à 50 ans ou plus. Ça me fait drôle, ça me donne le vertige. Hein, quand on ne voit pas sa propre vie. Argenteuil, 66, 76, 86, 96, 6, 16.
Presque 40.
50. Terrible. Je me vois comme si c'était hier, assis avec Aragon qui venait de piquer sa colère et qui dit « Si on ne prend pas ce texte, je dénonce, je me retire !» C'était il y a 50 ans. Est-ce que je ne suis pas en train de manier la nostalgie ? Est-ce que ce n'est pas une fuite vers le passé ? Est-ce que je sème vraiment des graines d'avenir ? J'ai tendance à répondre oui. Oui. Parce que... Mais, je vais vous raconter. Quand Aragon écrit ce roman d'histoire, La Semaine Sainte, qui se passe à l'époque des 100 jours, on est très proche des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Vraiment, tout de suite après la Révolution française, on est dans le passé romantique. Géricault, le peintre, sur sa table, c'est sidérant, ça m'a toujours sidéré. Qu'est-ce qu'il a, écrivant cela ? Encore un télescopage des temporalités. Une petite maquette, on en avait tous, de Spoutnik, le satellite soviétique. Il y en avait un. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 satellites. Le monde a beaucoup changé, mais Aragon est déjà à la rencontre du passé et de l'avenir. Et il ne pense au passé que pour évoquer l'avenir. Et alors aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire qui est actuel chez Aragon ? Mais les valeurs, bon sang. Nous voilà dans ce monde où, comme l'avait prédit Marx, excusez-moi de le citer, oui, je signale au passage que aucun, il y a plus de 80 thèses sur Aragon aujourd'hui, soutenues ou qui vont l'être. Certaines excellentes. Ça fait beaucoup, hein. Aucun n'a traité Aragon et le marxisme. Ça pose quand même une question. Dans quel état d'esprit on a abordé cet auteur ? On se défile devant la réalité. Alors moi, Je suis allé voir sa bibliothèque. Bon, j'ai vu ce qu'il a lu. Puis, comme à l'époque, il fallait couper les papiers, ben, pour lire les livres, j'ai vu qu'il n'a pas lu le Capital, pas une ligne. C'était pas son truc, mais il a lu Idéologie Allemande. Il a plusieurs exemplaires du Manifeste communiste. Il a lu, c'était un romancier, le 18 Rupert de Napoléon Bonaparte, avec cette étude de sociologie, l'extrême diversité des couches sous couches, sous catégories sociales, qui est un millefeuille. Et puis, le thème important de la représentation dans la tête des gens, etc. Je crois que Aragon apporte des valeurs, comme toute la poésie, comme toute la culture, qui vont à l'encontre de ce que Marx a appelé dans je ne sais plus quel texte, peut-être dans le Capital d'ailleurs, le monde va devenir un immense entrepôt de marchandises. C'est fait. L'hiver, il n'y a qu'à venir ici, la neige elle-même est une marchandise. Et l'argent est une marchandise, etc. C'est pas que ça la mondialisation, c'est la mondialisation, c'est la marchandisation, et c'est la tentative pour faire tourner en arrière la roue de l'histoire en faisant en sorte que les conquêtes réalisées par le mouvement ouvrier et populaire au cours des 150 années précédentes soient réduites, diminuées, marginalisées. Si on voit pas ce troisième aspect du trépied mondialisation, alors on a forcément une politique fausse. Vous voyez qui je veux dire. La valeur dominante, c'est le profit monnaie, le profit argent. La fameuse formule marxiste, A donne A prime, avec M, marchandise, le produit entre les deux. La règle du jeu étant que A prime soit plus grande que A, sinon vous êtes un mauvais capitaliste qui se fait beaucoup par les autres. A et A prime, l'argent au début et à la fin de la formule. Je pense qu'on pourrait expliquer ces choses très simples, voilà, au fond des choses. On a beaucoup d'électronique, mais on manque quand même un peu d'idées, hein, parfois. Ah. Oh. Face au marché, il y a la culture, il y a la poésie. Quand Aragon dit « Dans ce monde-là, je réclame la place de la poésie », la poésie, elle est gratuite. Le roman, c'est gratuit. C'est le monde de la noblesse de l'esprit, de la noblesse de l'âme. C'est pas l'argent. Si vous voyez ce qu'un éditeur vous donne pour une biographie épaisse comme ça, hein, c'est une aumône, parce qu'il n'ose pas vous la prendre gratos. Hein. C'est comme ça. C'est la première question. La deuxième, si vous voulez, la place de la poésie c'est gratuité. La poésie c'est. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile. Attention, hein. Gratuité en parlant d'argent. Mais utilité humaine prodigieuse. Le deuxième élément de la poésie pour Aragon, c'est l'échange, c'est la communication, c'est les mots, c'est la fraternité. Il y a un poème où il dit « Je suis bien votre pareil, je suis bien pareil à vous ». Il y a toujours eu ce sentiment de fraternité qui s'adjoint à sa fidélité. Et puis la liberté créatrice. Alors, j'ai dit Aragon est peintre des désastres, le peintre de la souffrance, etc. Est-ce à dire que... malheureux vaincu. Ah, nous sommes les vaincus de l'histoire pour l'instant. Malheureux vaincu, je crois que chez Aragon, il y a cette idée qui court à travers sa poésie, si on sait la lire, que c'est tout le contraire. Les vainqueurs seront les vaincus d'aujourd'hui. Parce qu'ils portent une idée de l'humanité, un humanisme qui est contraire au développement même de l'humanité. Alors ce qu'ajoute Aragon, il l'a toujours pensé, c'est qu'on n'est pas sûr que ça marchera. Il n'y a pas un déterminisme fixe, établi, ce n'est pas mécanique tout ça. Ça dépend de l'intervention humaine, de l'initiative humaine. Voilà. Alors, bien sûr, c'est difficile à vivre, toute cette souffrance. Parce que, Aragon l'explique bien dans la fin de la Semaine Sainte, la mort est individuelle. La vie de chacun de nous est courte, même si on l'allonge un peu aujourd'hui. Et on ne voit pas forcément pourquoi on a travaillé. D'ailleurs, on ne le verra jamais, c'est inachevé. Le mot roman inachevé est très profond chez Aragon. Le thème de l'inachèvement, c'est toujours à refaire et à continuer. On se pense que toutes ces idées ne sont pas des idées obsolètes, passées, mais sont au contraire très utiles pour nous. Le monde n'est monde que partagé, dit aussi Aragon dans Blanche ou l'oubli. C'est-à-dire que, à travers tous ces thèmes, apparaît la nécessité de la solidarité, je et les autres. L'avenir, c'est les autres, dit-il dans la Semaine Sainte. C'est l'homme vainqueur par l'espèce, dit-il dans le Fou des Hommes. C'est-à-dire qu'il y a en nous, en chacun de nous, un élément qui appartient à toute l'humanité et vis-à-vis duquel nous avons des devoirs, des tâches, nous pouvons le faire avancer sans en récolter forcément le fruit nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire essentiellement, en ajoutant ceci. J'ai conclu. Le livre est essentiellement chronologique, bien sûr, puisque c'est une biographie, mais pas seulement. Il y a des moments où je fais des coupes, etc. Et surtout, la conclusion n'est pas du tout dans l'ordre chronologique. J'ai fait un chapitre de conclusion, très court, trop court, sur le Fou d'Elsa. Le Fou d'Elsa, 1962. C'est un immense poème, encore très difficile pour moi. Je suis certain de ne pas avoir compris le tiers de ce poème, très difficile. C'est la légende des siècles d'Aragon, si vous voulez, pour comparer avec Hugo, Alter Hugo. Mais j'ai aimé le Fou d'Elsa parce qu'il exalte le couple, parce qu'il exalte la solidarité, la fraternité, et surtout, parce qu'à cette image qu'on nous donne aujourd'hui dans la mondialisation, de la lutte de tous contre tous, et du prétendu choc des civilisations, Aragon montre tout au contraire la convergence, la confluence, l'entraide libératrice, émancipatrice des différentes civilisations. L'islam, la chrétienté européenne, le communisme, le judaïsme, les tziganes même. Ça se passe à Grenade, vous savez, au moment de la découverte de l'Amérique et au moment aussi où on envoie les juifs quelque part à Marrakech. Je pense qu'il était bien terminé par cela, parce que ça montre qu'il y a encore beaucoup à découvrir chez Aragon, pas pour son siècle, mais pour le 21e siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.